Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Tiens, c'est vendredi, et si au lieu de partir en week-end à Brie-Comte-Robert, nous allions faire un tour dans l'espace, pas la voiture, la Voie lactée, en compagnie, mesdames, de Brad Pitt. Voilà la proposition que nous fait aujourd'hui un des plus grands cinéastes de l'époque, James Gray, qui, vous n'allez pas tarder à le découvrir, a plus que 50 nuances à sa palette. Et c'est une proposition qui mérite réflexion quand on jette un coup d'œil à l'état de notre pauvre vieille planète. Extinction des espèces, à l'exception de celle des connards qui prolifèrent, nouveau roman de Eric Emmanuel Schmitt, réchauffement climatique, fonte d'épaule, réajustement des montants compensatoires, embrasement de l'Amazonie, ma brosse à dents électrique, commandée sur Amazon et qui n'arrive pas, montée des eaux, descente des organes, invasion de poux dans la classe de junior, pesticides en folie, le crack bancaire qui s'annonce, les cités qui vont craquer, et j'en passe et des meilleurs. Oui, pourquoi ne pas tourner nos regards vers les étoiles et méditer quelques instants sur la relativité de toutes choses, notre insignifiance dans cet univers infini et l'éternelle question d'une présence autre que la nôtre dans la création, pour autant bien sûr qu'il s'agisse d'une création, et non pas de la combustion spontanée d'une particule élémentaire comme le 2 de De Cône. Ou plus simplement, se précipiter en salle mercredi pour y découvrir ce film étourdissant qu'est Ad Astra, le nouveau James Gray, qui est l'invité de Popopop donc.
France Inter. Popopop. Antoine De Cône.
Et à mes côtés, celle qui n'a jamais eu de problème de livraison de brosse à dents sur Amazon, si j'en crois son sourire Colgate.
C'est pas facile pour parler. Bonjour.
Bonjour Charline. Continuez à sourire, s'il vous plaît, comme moi. Au menu donc de Popopop, des plus grands cinéastes.
Ça va être pénible, non? Un peu.
Oui, mais on va tenir. Un des plus grands cinéastes de l'époque. Je sais, ça calme. Nous sommes donc allés à la rencontre de James Gray. L'entretien, c'est dans quelques instants. Au menu également de Popopop, une question. Vaste question à laquelle va tenter de répondre notre Patrick Juvet local, Ronan Crowe. Mais avant ça, lorsqu'un des plus grands cinéastes est au micro de Popopop, ben on lui pose une question. Une question encore plus intrigante que la coloration de Patrick Juvet. Et cette question, c'est...
For you, James Gray, what is pop culture?
Well, in English, it has a negative connotation.
Dans la langue anglaise, le mot pop culture a une connotation négative. On a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une espèce de mouvement un peu superficiel à la mode qui n'est que temporaire. Alors, ce qui est plutôt sympathique par rapport à la culture pop, c'est que dans sa meilleure expression, elle peut devenir en elle-même une forme de mythe collectif. Par exemple, le sommet de la culture pop ou de la musique populaire, les Beatles, c'était une forme de culture populaire, populaire dans le sens où ils avaient un immense public et ils ont transcendé la forme musicale bien au-delà de leur propre existence. C'est quelque chose qui a créé un nouveau genre. Donc, dans sa meilleure expression, la culture populaire, la pop culture, peut créer un mythe collectif qui peut persister et éviter une certaine forme d'élitisme qui aurait peut-être tendance à aller à l'encontre des grandes œuvres d'art.
La pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Popopop, juste après What Can We Do, qu'est-ce qu'on peut faire, hein. C'est un morceau signé Anderson .Paak.
The hook fast, real life round, big son of a gal.
Heart made of stone.
Why you grew so cold?
Cause my girl up and gone.
She'll be back in the morning.
Go on, mama, take your trauma.
Seems like I can't live without
her. I'm aching more.
Cause my heart is broke.
Cause my love went wrong.
Yeah, another bag and she left me in the mold. While the bubble over the stove. As I was dreaming of a bag, when I woke, it was starting to snow.
Oh, yeah.
And in a bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be.
Turn it around.
to make it feel just like it used to feel. If my cup was empty, you could feel it.
For the studio session. Hold on. You sound good, bro. Where you going?
Let me go.
Hey.
Whoa.
What can we do? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ces dernières pépites pop signées du producteur américain Anderson Paak en featuring avec Ned Dogg. Vous écoutez Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Gray. Et c'est quoi cette musique? Non, attendez, pas ce Gray-là. Passez au pop-portrait avant que je me fasse lacérer le dos, moi. Alors oui, un pop-portrait, bah, c'est un portrait, bien sûr, mais... Et c'est signé Charline...
Attendez, je vais vous détacher. Aujourd'hui, un invité qui nous fait dire que 7 est définitivement un nombre étrange. Il désigne l'intégralité des péchés capitaux, décidément, le nombre d'années de malheur auquel doit faire face celui qui a cassé un miroir, ou le nombre de saints de Bretagne, ce qui n'a que très peu de rapport avec ce qui suit, mais j'avais envie. Et enfin, le nombre de couleurs de l'arc-en-ciel, soit un nombre qui trimballe avec sa mythologie à la fois l'idée de gaieté et de tragédie, un peu comme Antoine. 7, c'est aussi le nombre de films au crédit de notre invité qui lui aussi trimballe avec lui de la tragédie et un peu de lumière, avec l'histoire d'un jeune tueur à gages dépressif dans Little Odessa, une peinture familiale de type noir c'est noir avec The Yards, un polar un peu sexy avec La nuit nous appartient. Non, c'est rétro fort Antoine là, vous allez... Bon, bref. Un mélo inspiré de Dostoïevski avec Two Lovers, une affaire de rêve américain avec Marion Cotillard pour The Immigrant, un film d'aventure avec The Lost City of Z. Et aujourd'hui, il nous met en orbite ou presque, non arrêtez Antoine, avec Ad Astra. Voilà. James Gray, aujourd'hui un pop, 7 nuances de cinéma.
Marion Cotillard.
Bah oui, c'est un film américain.
Oh,
The Immigrant,
d'accord.
With Marion Cotillard, you
alors,
know.
Avant qu'il nous mette en orbite, allons découvrir son planète pop. C'est l'heure de sa pop liste.
Nous avons demandé à James Gray de choisir un livre, un film, une musique et une série culte, et on commence par le livre.
Well, I have to go with Moby Dick.
Ce sera quand même Moby Dick d'Herman Melville.
I came to Moby Dick somewhat late.
J'ai découvert ce livre assez tard.
Mais
j'avais une trentaine d'années quand j'ai lu Moby Dick pour la première fois. J'étais censé le lire à l'école et puis j'avais séché les cours. Enfin bon. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que j'ai découvert ce livre en tant qu'adulte et c'est un livre qui a eu beaucoup d'impact sur mon travail.
Merci James Gray. Passons maintenant au film. Quel est celui que vous retiendriez s'il ne devait en rester qu'un seul?
Je ne sais pas s'il relève de la culture pop. Presque tous les films relèvent un peu de la culture pop, je me dis.
Mais, vous savez,
j'ai changé d'idée, mais maintenant c'est La Strada de Fellini qui me vient à l'esprit.
C'est
l'archétype du film profond, touchant, simple à la fois et extrêmement complexe en même temps.
Ma sei sicura di essere una donna? Sembri un carciofo.
La Strada de Fellini pour le film choisi par James Gray, donc. Continuons l'exploration de cette planète pop avec la série. Quelle est celle qui vous vient tout de suite en tête?
Une série télé. Il y en a plusieurs. Les Sopranos. C'est le premier choix. Par rapport à Goodfellas et Godfather, enfin, le parrain et autres, et ce genre mafia, je crois que Les Sopranos a dépassé cela pour devenir une histoire assez détaillée, intéressante sur la vie américaine.
Voilà un un excellent choix, n'est-ce pas, Charline? La sopraniste que vous êtes, est-elle comblée?
Très, tout à fait, entièrement, intégralement.
Comme tous les jours. Bien, terminons cette pop list avec la chanson culte de James Gray.
Une chanson? Ah, ça c'est moins facile. À l'instant, je penserais Armageddon Time des Clash. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Vous savez, la musique est le chemin le plus direct au cœur et à l'âme de l'homme, donc elle transcende l'explication et toutes mes prétentions s'évaporent quand il s'agit d'en parler. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. And the battle is getting hard in this Irish Armageddon time. Clash Armageddon Time pour terminer cette pop list avec James Gray, que nous retrouvons pour la suite de l'interview juste après un morceau de Vampire Weekend, ou Vampire Weekend, comme dit Charline, et c'est Harmony Hall.
Harmony Hall.
Harmony Hall.
Mmh, voilà. We took a vow in summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Singers harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't want to live like this, but I don't want to die. Like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't want to live like this, but I don't want to die.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
James Gray est dans Pop 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 et c'est un événement. Il est venu nous parler de son nouveau film, Ad Astra, et on en parle avec lui dans 5, 4, 3, 2, 1, feu. Ad Astra, c'est votre première sortie dans l'espace. Un petit pas pour l'homme que vous êtes, un bond géant pour l'humanité.
Vous savez, je ne pense pas que ça fasse une si grande différence que cela. Qu'on fasse le film en France, en Europe, ou dans mon arrière-cour, ou dans l'espace, ça revient un peu au même, à mon sens. Vous savez, il y a comme... Bah, il faut se concentrer quand même sur son histoire, sur son film à telle enseigne, que ce qui compte finalement, c'est d'être soi-même. Et il y a une citation que j'avais lue... chez un artiste à Los Angeles, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Cette citation dit, c'est que l'histoire et la mythologie commencent dans le microcosme du personnel, de la personne. Quoi. Donc oui, c'est l'espace, c'est un décor immense, mais finalement on se concentre sur les aspects personnels finalement.
L'ambition avec Ad Astra était néanmoins de donner à voir, je cite, la représentation la plus réaliste d'un voyage dans l'espace jamais vu au cinéma. À grandes ambitions, grosses responsabilités, comment est-ce qu'on s'y prend ? Est-ce qu'il vous a fallu prendre beaucoup d'élan ?
You know, I said that in an interview where
c'est vrai,
I wanted to
j'ai dit ça dans une interview où je disais que je voulais faire le film d'espace le plus réaliste de tous les temps. Et j'ai regretté cette phrase amèrement depuis, parce que ce que je voulais dire en fait, c'est qu'est-ce qui est plausible finalement ? Est-ce qu'il est plausible dans un avenir proche que nous puissions nous rendre à Neptune en 79 jours ? Peut-être. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui ? Absolument pas. Le voyage vers Mars, qui est prévu pour 2033, je crois, même ça, il faudra 1 an et demi pour y arriver. Donc, ce que j'essayais de faire dans ce film, c'est de rendre l'histoire plausible. Bien entendu, il y a des licences poétiques, parce que si tout le monde se baladait dans l'espace, sur une base, sur la Lune ou sur Mars, ce serait peut-être plus réaliste, mais ce serait un petit peu ridicule. Donc, il faut quand même définir, disons, des règles de base. Se dire, voilà, c'est ce qui est, ce serait peut-être plausible et c'est le point de départ. Alors, j'ai fait quand même pas mal de recherches en préparation de ce film, mais même dans le cadre de cette recherche, inévitablement, on va faire des erreurs. Regardez 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça, c'est mon film favori dans ce genre-là. Alors, on peut adorer Stanley Kubrick, et puis lui, il avait également fait son travail de préparation en amont. Il s'est complètement planté sur la surface lunaire. Alors, on peut lui dire, bon, bah, c'était dans les années 60, il n'y avait pas de mission Apollo sur la Lune et tout ça, mais quand même, si M. Kubrick a le droit de se planter, bon, bah, ça vous en dit long sur les autres.
James Gray, après le film noir, la romance, le film d'époque et le film d'aventure, la science-fiction, c'est un genre de plus auquel vous vous frottez. D'où vient ce désir de changer de film, de genre à chaque film ?
It's interesting. There is a contradiction in
vous savez, c'est intéressant. Pour chaque cinéaste, je devrais parler pour moi, il y a, disons, une contradiction intrinsèque. D'un côté, on veut refaire toujours le même film, c'est-à-dire qu'on veut raconter les mêmes choses, parce qu'on essaie d'être soi-même, d'être personnel, de se révéler, mais en même temps, on veut le faire de manière différente, dans un contexte différent. Donc c'est une nouvelle façon de se réinventer, en quelque sorte. Alors, si je refais toujours le même film dans le même genre, on a l'impression de faire du surplace quand même. Mais non, les films ne sont pas les mêmes. Enfin, je ne passe pas mon temps à regarder mes propres films, donc ça m'est un petit peu difficile de parler de cela. Mais enfin, on essaie d'explorer les choses à mesure qu'on évolue soi-même. Et à chaque fois que je regarde l'espace, le ciel, je vois les étoiles, les astres, l'infinité de l'espace, cet aspect à la fois, enfin, le côté accueillant et effrayant en même temps de l'obscurité, c'est la métaphore parfaite de ce que moi j'ai vécu il y a 2 ans. Ça n'est pas ce que j'ai... Enfin, il faut comme un certain temps pour faire un film. Donc, ce film représente là où j'en étais moi-même, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et ce que j'essayais de faire, c'est d'être le plus pur possible dans l'expression de ce que je ressentais, de ce que je vivais. Mais plus l'espèce humaine tente de se tourner vers l'extérieur, de jeter son dévolu, ses espoirs, ses ambitions vers l'extérieur, en quelque sorte, de repousser encore plus loin ses limites, plus je me dis que, en même temps, la terre inconnue, finalement, c'est notre âme, c'est notre soi-même. C'est ça que j'essayais d'exprimer cette fois-ci. Et quant au genre cinématographique, en fait, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est la métaphore idéale de ce qu'on essaie d'exprimer.
Vous parliez il y a un instant de 2001 de Kubrick. Si on y ajoute un peu d'Apocalypse Now et un soupçon de Joseph Conrad, est-ce qu'on a là la somme de vos inspirations pour Ad Astra ?
J'y ajouterais encore Moby Dick de Melville, parce que je me suis dit que Ahab, le le personnage de Moby Dick est un capitaine extraordinaire parce que lui, ce qui le poussait, c'est toute une diversité de circonstances et de motivations. Et il arrive à un tel point d'obsession de rechercher cette baleine blanche, cette espèce de, d'être inaccessible, inimaginable en quelque sorte. Ça, c'est vraiment ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains. Ça, c'est ce qui caractérise tout ce qui est à la fois bon et mauvais chez nous, dans la nature humaine. Alors, le personnage Ahab est un fou parce qu'il entraîne son équipage vers la destruction, mais cet aspect psychotique de la nature humaine, c'est en même temps ce qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Alors, il y a effectivement du Melville et du Ahab dans le personnage joué par Tommy Lee Jones dans le film. Et d'ailleurs, dans le film, il dit « Ça fait 30 ans que je respire le même air et pas une seule fois, j'ai respiré la même chose. » Bon, ça, c'est presque mot pour mot une citation du roman de Melville.
Vous imitez très bien Tommy Lee Jones.
Well, I try.
Je fais de mon mieux. Vous savez, quand on fait des films, il y a des répliques différentes, des personnages différents. Mais quand vous avez Tommy Lee Jones qui est prêt à dire son texte, on essaye. Alors, moi, dans la salle de montage, je dis une réplique. Dans ce genre-là.
Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, qu'est-ce que tu fous là?
J'essaie d'imiter la voix de Tommy Lee Jones. Je m'enregistre moi-même pour voir ce que ça donnerait dans le film. Une espèce de répétition grandeur nature. Mais je ne suis pas un très bon acteur. Il faut que ce soit Tommy Lee lui-même qui le fasse.
James Gray, avec Ad Astra, vous inaugurez un genre qu'on pourrait qualifier de science-fiction intimiste, spectaculaire, autant qu'intérieur. Pourquoi les films de science-fiction sont-ils si rarement intimes à votre avis?
That's a great question.
Superbe question.
Well, it's there are a whole host of traps.
Je vous dirais, il y a toutes sortes de pièges dans lesquels on peut tomber dans certains genres cinématographiques.
Science fiction it's the reliance on science to answer.
Dans la science-fiction, on s'appuie sur la science pour apporter des réponses aux questions sans réponse. Alors, si on regarde un film de science-fiction, bien souvent, il s'interroge sur les faux dieux, ces petits bonshommes verts qui peuvent nous tirer de nos problèmes, ou alors les méchants hommes verts contre lesquels il faut s'unir. Et puis, souvent, on a l'idée que la science elle-même va à l'encontre de nos instincts intérieurs. Alors, dans l'énoncé science-fiction, vous avez là la résistance, justement, à l'intérieur affectif, à la réalité intérieure. Mais c'est un piège. C'est d'ailleurs une erreur. On n'a pas besoin de tomber dans ce piège. Et d'ailleurs, justement, 2001, je trouve que c'est un film très émouvant. Mais ce film, disons, s'appuie sur une idée qui est quand même très différente de l'idée habituelle de l'âme humaine. C'est le mythe des dieux. Et justement, Kubrick évite le piège des petits hommes verts bons ou méchants parce qu'il a cette espèce de grande plaque, cette espèce de menhir monolithique qui ressemble à une sculpture des années 60. Mais on peut y projeter tout ce qu'on veut, des bonnes choses, des mauvaises choses. On ne sait pas trop quel est le sens de cette espèce de bloc de monolithique qui devient en soi une espèce de mythe, mais un mythe des dieux et non pas de l'homme. Et ce que nous avons essayé de faire ici, c'est un film qui représentait justement le mythe de l'homme. Et disons que j'ai moi-même une disposition assez contrariante. Si quelqu'un dit A, moi je dis B. Et alors, c'est peut-être un problème d'ego, je ne sais pas, je veux me distinguer des autres, me différencier. Mais si tout le monde fait une chose, ça m'inquiète. Si tout le monde fait la même chose, il faut prendre des risques. En science-fiction, l'idée est de se dire que tout cet univers est froid et intangible. Bon, d'accord, mais alors comment travaille-t-on cette idée? Une excellente question, encore une fois.
Science-fiction intimiste, alors oui, effectivement, c'était une très bonne question, mais enfin, on ne va pas s'enflammer non plus. Si on voit aussi dans Ad Astra un très beau film sur l'absence et la filiation, est-ce qu'on se pourvoit une variation en solitaire de l'Empire contre-attaque, en quelque sorte ?
Vous savez, l'Empire contre-attaque, qui à propos est un très beau film, hein. Pour moi, ça n'est pas vraiment un film de science-fiction, pour moi, c'est un film fantastique, d'aventure. Mais quand même, vous dites quelque chose d'intéressant, parce que George Lucas, enfin, en l'occurrence, c'est Irving Kershner qui était le réalisateur. Je crois que c'était Lee Brackett et Lawrence Kasdan qui ont écrit L'Empire contre-attaque. Toujours est-il qu'ils avaient ils ont vraiment une connaissance, justement, de toute la notion de mythe et de mythologie. George Lucas, d'ailleurs, est très ouvert par rapport à cela. Il y a une dette envers Joseph Campbell, le héros aux mille visages. Je me rappelle avoir vu le film L'Empire contre-attaque avec mon fils, il devait avoir 9 ans, il a 14 ans maintenant. Et je me rappelle l'expression sur le visage de mon fils, Luke, I am your father, je suis ton père. Et quand il a vu cette scène, c'était l'expérience la plus cataclysmique, la plus épouvantable qu'il ait jamais vécue au cinéma. Parce que dans cette scène, finalement, c'est un engagement envers la puissance du mythe. Et ça, alors ça c'est quelque chose, enfin c'est une affinité que j'ai vers Campbell, la notion du mythe. Moi, j'aime me dire que les choses sont différentes, que Campbell traite les choses différemment, parce que je ne veux pas détruire dans mon estime l'œuvre de George Lucas, mais tournez-vous vers Apocalypse Now et lisez le héros aux mille visages de Campbell, ben vous verrez pratiquement la même matrice dans l'œuvre de Campbell et Apocalypse Now. Donc les approches littéraires et cinématographiques sont très différentes, mais la source est la même. Et vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, le mot héros lui-même, ce mot, finalement, a changé d'acception au cours des 20 dernières années, en tout cas dans la culture populaire, parce que héros est devenu synonyme de super-héros, mais pourtant, c'est pas du tout la même chose qu'un héros de la mythologie, qui peut être un personnage avec d'énormes défauts et qui peut d'ailleurs échouer dans ses démarches. Alors que le super-héros, c'est un personnage qui a toutes sortes de pouvoirs, au bout desquels il y a toujours la victoire. Et pour moi, le mythe du héros, enfin, nous savons que ça relève du fantasme, ça n'a aucun sens, mais c'est un fantasme nécessaire, hein, c'est du non-sens nécessaire parce qu'on en a besoin pour survivre, on a besoin de mythes pour survivre. Donc ceci ne va pas à l'encontre de la pensée post-68arde. Au contraire, hein, c'est la même pensée, mais on souligne l'importance du mythe, de l'aspect émotionnel du mythe, l'aspect fantasmatique, mais également la beauté du mythe. Pourquoi ? Parce que cela nous rappelle nos propres échecs, nos propres limites et nos propres aspirations.
Merci James Gray, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette conversation spatiale, mais avant ça, revenons sur Terre, c'est l'heure des news.
Des artistes sur le divan, c'est le programme de Thérapie, un programme qui va bientôt débarquer sur Viceland France, l'adaptation d'un programme américain qui a vu défiler en consultation Katy Perry, Joey Badass, Damien Abraham, Waka Flocka Flame, face au docteur Siri Satnam Singh, thérapeute à Los Angeles. Et voici la bande-annonce de la version française avec Fianso, Gizmo, Lino d'Arsenic ou encore Al Capote. Je vous laisse découvrir le praticien.
Je m'appelle Fernando Diamorim et je suis psychanalyste.
J'ai besoin de voir un professionnel pour parler de tous mes problèmes.
Qu'est-ce qu'il y a, dites-moi. Vous avez parlé de votre mère. Touchez un mot sur votre père, parce que c'est aussi le fruit de votre rancune. Peut-être l'image que vous avez de vous ne correspond pas à la réalité. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, dites-moi.
Des rappeurs sur le divan, c'est dans Thérapie. Les sessions démarrent bientôt sur Viceland.
Notre star du jour s'appelle Mamie Poney. Découverte sur les réseaux grâce à sa petite fille, ayant publié le tweet suivant.
Ma grand-mère vient de composer une chanson sur le fait qu'elle désirite mon papa parce qu'il fait trop de muscu. J'ai juré, elle mérite de percer, là.
Mission presque accomplie puisque la vidéo a été likée plus de 59 000 fois et service public oblige, la voici.
Tu dis que tu peux pleuvoir, t'as d'autres choses à faire. Pour les frites du dimanche, c'est fini, je reste solitaire. La salle de gym, la muscu sont prioritaires. Alors, à ma mort, t'étonnes pas. Je te déshérite. Ah bah oui, c'est mamie.
Titre de la chanson L'héritier, retrouvé sur la chaîne YouTube de Mamie Poney. Allez, faites péter les compteurs.
Unbelievable, ce n'est pas une opinion émise quant à vos prouesses quotidiennes, Antoine, mais le nom d'une série adaptée d'une histoire vraie, celle de Marie, une adolescente accusée d'avoir menti sur le fait d'avoir été violée.
Marie a tout inventé.
Je suis à peu près sûre qu'un homme m'a violée.
À peu près sûre ou complètement sûre?
Il me posait les mêmes questions. Elle tient pas la route, votre histoire. Je voulais partir, rentrer chez moi.
Il n'y a aucune victime ici. C'était du vent. Elle a tout inventé.
Tout inventé ou pas, c'est ce que devra déterminer l'enquête menée par deux détectives incarnés par Merritt Weaver et Toni Collette. Unbelievable, c'est aujourd'hui sur Netflix.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Ben oui, c'est encore moi.
La petite fille de Mamie Poney.
Mais oui, bravo.
Je doute qu'elle ait cette voix parce qu'elle me semble plus âgée que
merci,
ce que vous incarnez.
Charlie.
Enfin, c'est un détail.
Bien, la suite de l'entretien que James Gray nous a accordé, c'est juste après le morceau Top Down du chanteur californien Channel 13.
Y'all know me, Jim and I are different ass niggas. Just be on my shit. All kind of shit going on. My brother doing 30. I gotta do something out here. Something different out here. You already know. Nigga really is from the block though. But you ain't never heard shit like this from the block before.
Yeah.
Top down.
Top Down. C'est signé Channel 13 et c'est extrait de l'album Channel 13. Pourquoi faire compliqué, hein? Bon, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous remettons nos casques de cosmonautes pour retourner avec notre envoyé spatial James Gray. Vous êtes prête, Charline?
Toujours.
Alors c'est parti. C'est marrant parce que vous n'avez pas de casque.
Non.
France Inter. Antoine Decaune.
Ad Astra, c'est un long voyage aux confins de l'univers dont notre héros, interprété par Brad Pitt, va revenir métamorphosé. Bande annonce.
We have some highly classified information.
What can you tell us about the Lima Project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
Comment choisit-on un acteur qu'on va filmer de si près, si longtemps, dont on sait qu'il va être de tous les plans, et ce n'est en aucun cas un reproche, puisque je le rappelle, c'est Brad Pitt.
Every actor, male or female,
chaque acteur ou chaque actrice porte en lui ou en elle un mythe ou une mythologie qui les suit ou qui les précède. S'il s'agit bien sûr de personnes connues. Alors, si vous choisissez un acteur inconnu ou non professionnel, et dans le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, vous savez que le choix de l'acteur a été justement celui d'un inconnu. Ce choix peut s'expliquer, il y a un certain pouvoir, mais comme vous n'avez pas de mythologie, c'est un autre point de départ. Alors qu'ici, vous racontez l'histoire d'un héros mythique. Dans ce cas, ce qu'il me fallait, moi, enfin, il fallait quelqu'un qui soit doué d'une masculinité presque archétypique pour que je puisse la renverser en quelque sorte, ou la traiter de telle sorte que je puisse souligner son côté négatif, toxique, pour dire que vous êtes un personnage certes courageux, mais inhumain. Enfin, il faut se dire que l'hyper-masculinité n'a aucun intérêt, parce que ce dont on a besoin, en fait, c'est un certain courage, le fait de regarder en face sa propre vulnérabilité. Or, la masculinité dans la culture occidentale est un véritable cancer qui nous a vraiment mené dans des situations épouvantables. Regardez les leaders du monde occidental. Il suffit de les voir pour reconnaître que, finalement, c'est une véritable menace qui pèse. Hein, l'idée d'être masculin, ce côté macho. Donc, pour aller à l'encontre de ce machisme, il faut avoir quand même un personnage qui, au départ, incarne cette masculinité. Si je choisis Wallace Shawn, qui est un excellent acteur, comme étant l'astronaute, là, évidemment, on s'arrête là.
Le point commun à la plupart de vos personnages, à travers vos films, c'est une forme de mélancolie, comme s'ils avaient du mal à trouver leur place dans le monde. Est-ce que c'est donc logique de les envoyer dans l'espace, voir s'il existe d'autres mondes?
Wow, these are tough.
Dis donc, ces questions sont pas faciles, là. Je
ne
sais pas si je peux vraiment parler de cette question de mélancolie. Vous avez raison, hein, bien entendu. Mais vous savez, c'est quand même curieux. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est le produit d'une réflexion concertée, de vouloir exprimer cette notion de mélancolie. Mais en même temps, c'est un peu moi-même. Je me rappelle quand j'ai fait le film « Two Lovers ». Au départ, je me suis dit, voilà, je vais faire une comédie romantique. Et puis, à mesure que j'ai tourné le film avec Joaquin Phoenix, je rigolais tout le temps, et lui aussi rigolait. Et puis, on se disait, c'est un film désopilant. Et puis, je me rappellerai toujours la première projection de la première version du film que j'ai présenté à des copains, une vingtaine d'amis qui étaient venus voir le film pour leur demander leurs sentiments. Et ils ont tout dit, c'est le film le plus triste que j'ai jamais vu de ma vie. Alors je me suis dit, je me suis peut-être planté quelque part. Et on se révèle soi-même à travers ces films malgré soi. Alors, cette dimension, cette essence mélancolique, finalement, elle finit par traverser, se retrouver dans mon œuvre. J'aimerais que non, mais vous connaissez Elvis Costello, le musicien. Il disait que ce que l'on fait, c'est de copier les autres, et puis là où on se plante, c'est justement sur son propre style. Voilà. Et j'ai essayé de faire des films pleins de vitalité, pleins de vie, pleins d'énergie. Et puis, au bout du compte, c'est toujours moi-même. Avec la mélancolie que ça implique. Alors, je suppose que l'espace est... Et le lieu idéal pour accueillir la mélancolie, parce que vous avez un lieu où il ne peut pas y avoir d'amour, il n'y avait que l'indifférence. L'indifférence est cruelle. Et donc, on voit toute la photographie, enfin, je parle de la cinématographie de la mission Apollo vers la Lune, et on voit que ce sont des images terrifiantes, horrifiantes. Alors, les astronautes sont ravis, ils jouent au golf ou que sais-je sur la surface de la Lune, mais vous avez cette surface qui est ultra brillante. On croit que c'est du gris clair, mais si vous ramassiez la surface de la Lune, par exemple un caillou, il est tout noir. Le ciel est noir aussi, donc tout est noir. Et cette obscurité, on n'en a pas du tout l'habitude. Alors que nous, sur Terre, la Terre qui est loin là-bas, vue de la Lune, est inaccessible, et il n'y a aucune façon de la rejoindre. Donc ça, c'est une source de mélancolie. Alors c'est très beau en même temps, mais c'est une scène de désolation.
James Gray, Ad Astra pose une question quasi métaphysique. Il semblerait que nous soyons seuls dans l'univers. Est-ce que c'est une désillusion de plus avec laquelle les générations à venir devront apprendre à vivre? Et à titre personnel, est-ce que vous vous en désolez ou est-ce que vous vous en réjouissez?
D'abord, quant à savoir si effectivement nous sommes seuls dans l'univers, je prends un risque en disant que c'est un fait incontournable. Si demain on découvrait des micro-organismes sur la planète Mars, je vous mets au défi d'avoir une conversation intelligente avec un micro-organisme bactérien.
Ça m'arrive pourtant.
Ah oui, et ça m'arrive effectivement à moi aussi. Même si on trouvait une forme de vie intelligente sur Mars, ce qui paraît douteux, il me paraît absolument inconcevable que cette forme de vie intelligente soit en mesure de communiquer avec nous. Et vice-versa. De toute façon, cette vie serait tellement distante qu'on n'arriverait pas à la joindre, même en communication, en l'espace d'une vie. Et ça, ce serait dans le meilleur des cas, à supposer qu'il y ait effectivement une autre forme de vie intelligente quelque part dans l'univers, à des années-lumière de chez nous. Ce qui veut dire que, en fait, pratiquement parlant, on est vraiment seul. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut s'en attrister? Non, moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Même si on dit, voilà, moi je veux aller dîner seul, moi j'aime bien voir des films tout seul, j'aime rester seul. Même en disant cela, c'est un luxe que nous pouvons nous offrir. Mais parler à des détenus qui sont enfermés en solitaire, là, leur approche psychologique est très différente. C'est une véritable torture que d'être obligé d'être seul. Apparemment, c'est une des choses les plus épouvantables qu'on puisse subir. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que quand on décide d'être seul, certes, on arrive à vivre sans les autres, mais si les autres ne sont vraiment pas là, on est vraiment perdu. Ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres. C'est plutôt une démarche plutôt optimiste. Moi, je trouve ça plutôt bien.
Merci, James Gray.
Merci beaucoup.
Ad Astra, ça sort mercredi prochain et c'est plus, mais alors bien plus que recommandé par Pop Pop Pop. Oh,
oh.
Mais voilà Patrick. Attendez, non, ce n'est pas Patrick Bruel, il a son pantalon. C'est Patrick Juvet. Bonjour Patrick. Aujourd'hui, Patrick Cros, vous vous posez donc la même question.
On attend pas Patrick, c'est ça
que Patrick Juvet, c'est ça.
Et oui, parce que bon, vous parliez conquête spatiale avec James Gray, eh bien moi je vais vous parler conquête féminine. Alors non Antoine, je ne parle pas de votre cheptel, de votre palmarès évidemment, mais bien de la conquête pour l'égalité homme-femme. Et je pense que Brad Pitt atteindra Neptune avant l'égalité, évidemment. Mais non, heureusement, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui font des choses très intéressantes. Mercredi en salle, en même temps que le fabuleux film de James Gray, il y a un film qui va remettre les compteurs à zéro. Ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu et c'est signé Céline Sciamma.
L'homme intéressé par ma fille est Milanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous.
Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte ?
Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière ?
Rassurez-moi, il va y avoir une BF.
Il est odieux. Oui Antoine, je vous vois, là vous êtes chafouin. Il n'y a pas de gros vaisseaux spatiaux, il n'y a pas de Brad Pitt, ça vous plaît pas? Eh bien non, Portrait de la jeune fille en feu est au moins aussi beau que le film de James Gray. Céline Sciamma a remporté le prix du scénario au Festival de Cannes, mais c'est surtout une déflagration son film. Alors de quoi ça parle, Portrait de la jeune fille en feu? On est à la fin du 18e siècle
de
et déjà là...
Archimor.
Bon, je vais parler à Charline Roux, je sens que c'est la seule que ça intéresse.
Oui, je vous écoute, Renan.
Oula, elle me fait peur. Donc, on est à la fin du 18e siècle et c'est l'histoire d'une jeune portraitiste envoyée sur une île pour faire le portrait d'une mariée qui refuse qu'on fasse son portrait. Jusque-là, c'est pas très excitant, mais tout d'un coup, ça devient un huis clos féminin, féministe, sur la question du regard. Et c'est le sujet du film de Céline Sciamma, Comment changer le regard? Comment faire un film hors des codes, hors des normes qu'elle désigne comme les normes patriarcales, c'est-à-dire en gros, des rapports de force. Et c'est la beauté du film, c'est que petit à petit, ces deux personnages vont se rencontrer, vont discuter, vont s'aimer aussi, c'est un grand film d'amour, et c'est fabuleux, c'est-à-dire qu'à l'écran, vous avez une sensation de quelque chose que vous n'avez jamais vu, et notamment un film sans homme. Alors là, tout d'un coup, on a
enfin.
Exactement. Et ce qui est très beau, c'est que Céline Sciamma, en fait, enlève l'homme du film, et petit à petit, quand il revient, ça crée une espèce de menace, de choses. C'est passionnant, c'est un film très très beau. Noémie Merlant, Adèle Haenel, on les retrouvera au César, c'est sûr et certain. Elles sont extraordinaires. Mais surtout, le film est splendide à voir, parce que ça traite de la peinture, du portrait, et qu'elle a essayé de peindre son film, en fait. Mais, en fait, il n'y a pas que Céline Sciamma qui essaye de bouger les choses. Je suis venu avec un deuxième conseil, parce que une chronique pour le prix de deux.
Et le Céline Sciamma, je ne l'ai pas encore vu, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un film absolument sublime.
C'est un film sublime.
Confirmé?
Confirmé.
Ok.
Confirmé, validé, c'est un film entêtant. C'est un peu l'équivalent, et je sais que ça va vous faire plaisir Antoine, de Call Me By Your Name. Vous avez adoré ce film.
La pêche.
La pêche. Il n'y a pas de pêche là, et vous verrez, il y a autre chose.
D'autres fruits?
D'autres, c'est 5 fruits. 5
par jour.
5 fruits
ouais.
Par jour.
Bien sûr.
Je suis venu avec un autre conseil, avec un livre à lire à côté de le Portrait de la jeune fille en feu. Ça s'appelle Ni vu ni connu ES. Ni vu ES, ni connu ES, hein, je donne moi. C'est en fait une sorte de collectif, le collectif Georgette Sand, qui raconte les femmes oubliées de l'histoire. C'est-à-dire toutes ces femmes en fait qu'on connaît, mais en fait on les a oubliées, on les a invisibilisées. 75 portraits de femmes, des artistes, des scientifiques, des intellectuels que l'histoire a généreusement oubliés. Alors par exemple, il y a des plus connus, il y a Camille Claudel que vous devez connaître évidemment, Alexandra David-Nel, Aliénor d'Aquitaine, Rosa Parks. Mais par exemple, est-ce que vous connaissez Vivienne Meyer?
Oui, la photographe.
Mais parce que vous êtes très brillant et vous êtes un féministe, en tout cas, tout le monde le sait.
Est-ce que grande photographe.
Exactement.
Enfin, une babysitter qui faisait de la photographie.
Et que l'histoire
et qu'on a découvert.
Exactement, et que l'histoire a mis de côté. Est-ce que vous connaissez Ilma Afklint?
Non.
Qui est en fait la reine de l'art abstrait, qui est presque celle qui a inventé l'art abstrait. C'est que des portraits comme ça, superposés côte à côte, qui donnent envie de découvrir d'autres histoires du cinéma, d'autres histoires de la littérature, d'autres histoires de la politique. Par exemple, on retrouve celle qu'on aime beaucoup, Alice Guy Blacher, qu'on a un peu oublié. On a dit que les frères Lumière avaient inventé le cinéma.
Ben
non, en fait, c'est la première cinéaste. C'est celle qui a vraiment inventé la fiction à l'écran. C'est très beau. C'est vraiment un livre très drôle aussi parce qu'il y a beaucoup d'humour. C'est donc le collectif Georgette Sand qui a fait ça. C'est chez Pocket, donc en plus, tout le monde peut l'acheter. Et je pense que c'est un livre qu'on devrait enseigner à l'école. C'est-à-dire donner d'autres histoires du cinéma, d'autres histoires de la littérature. Il y a des scientifiques, des intellectuels. Par exemple, moi, j'ai redécouvert Christine de Pizan. Non, ça vous parle pas, Christine de Pizan? Une femme médiévale, une féministe médiévale. Non, ça vaut pas.
Non, ça vaut pas. Continuez.
Voilà. Bah, c'est une femme qui est la première féministe, on va dire, Christine de Pizan. Vous avez Lady Montaigu. auteur du premier pamphlet féministe. Ouais. C'est que des personnages. Et on se dit que le cinéma devrait se pencher sur ce livre, ni vu ni connu, pour faire plein de biopics passionnants de femmes nouvelles.
Mais penchez-vous, Renan, penchez-vous.
Et ça donne envie, en fait, d'inscrire toutes ces femmes au Panthéon. Alors moi, j'en inscris une au Panthéon, c'est Charline Roux, qui vous supporte tous les jours, et qui est une femme fabuleuse et courageuse. Alors, vous parliez de Patrick Juvet au début de cette chronique.
Et donc, j'ai posé la question, où sont les femmes, et vous y avez répondu.
Exactement, et ce livre répond, où sont les femmes, ce qui donne, en fait, une occasion à Patrick Juvet de se taire, et ça, merci le féminisme.
Merci, Renan. Nous sommes vendredi, et c'est le grand jour du n'importe quoi. Non, pardon, c'est le jour du grand n'importe quoi. Voilà, c'est mieux dans l'ordre. Alexandre Verret.
Mes amis, l'heure est venue de montrer à l'ennemi que ce n'est pas parce que nous portons des bouchons d'oreilles que nous ne savons pas nous battre. N'ai-je pas raison, mes amis ?
Voilà les gars, c'est ce que je pense. Hein ? Ouais, bah écoutez, c'est mon point de vue, hein. Moi aussi j'ai le droit de m'exprimer, bande de canards.
N'importe quoi. Oh, merci mes amis. Oui, merci. Grâce à vous, je sais enfin qui je suis. Un putain d'enculé de merde. Oh, merci.
Over. Et merci Alexandre Verret. J'aime le beurre. Non, ce n'est pas une déclaration sur mes goûts perso.
Ah bon ?
Encore que. Mais le morceau que nous allons écouter maintenant pour rester dans le thème n'importe quoi.
Il faudrait un gros paquet de beurre, car j'aime bien le beurre. Et pas du beurre, beurre, beurre.
J'aime le beurre sur France Inter. C'est évidemment signé au bonheur des dames pour terminer ce pop-pop-pop. Je rappelle notre pop prescription du jour, le film Ad Astra de James Gray qui nous a rendu visite quelques jours avant la sortie du film. Rendez-vous donc mercredi prochain dans les salles obscures, comme ne disent plus les milléniaux. Et ça tombe bien, ça se passe dans l'espace. Effet Vachkiri garanti. Merci à l'équipe de pop-pop-pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Florent Bujon et Yves Lehor. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Alexis Alacour et Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, Raphaël Harry, notre stagiaire, et Robert Wolfenstein, à la traduction lundi dans Pop 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 E.
Jurer, on s'enfumine, on vide le plancher.
Les bébés brunes qui sont moins bébés mais toujours aussi brunes, ils seront dans ce studio et en live sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yves à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Patrick Juvet à la fin de ses tutos coloration sur YouTube,
abonnez-vous à notre podcast.
Je vous avais dit de desserrer le lien, c'est pas bon pour vous.
Suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.